Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Alors ce qui est étonnant et ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui on a une évolution du climat dans le monde. C'est évident, on le vit tous les jours. Le stress hydrique est très peu dû à ces changements climatiques en fait. Si tu prends en 1950, si tu veux, quand je parlais de ces fameux mètres cubes à disposition, chaque habitant dans le monde avait 17 000 mètres cubes d'eau dispo à travers le monde. Aujourd'hui, on en est à moins de 7 000. Aujourd'hui, les terres agricoles en un siècle ont été multipliées par 50. Donc, en fait, c'est simplement la croissance de notre planète, la croissance de nos besoins, la croissance démographique, la croissance industrielle qui s'est accaparée cette ressource eau pour nourrir, pour construire. Et évidemment, il y a une évolution du climat dans le monde, mais l'évolution climat a un impact et met un effet loupe sur le stress hydrique. D'accord. Bien évidemment. Et on se dit, oh là là, il y a un stress hydrique, regardez, il fait trop chaud, donc il n'y a plus d'eau. Mais c'est très, très... Moi, je dirais la problématique de l'eau vient pas de là. La problématique de l'eau vient de la croissance de notre monde. En 100 ans ou en 200 ans, la croissance démographique est telle qu'elle a complètement accaparé le besoin d'eau. Aujourd'hui, l'eau douce disponible, à 70%, elle est utilisée par l'agriculture. 20% par l'industrie et 10% pour la consommation à boire. Donc, quand on voit l'évolution de l'agriculture dans le monde pour nourrir 2 à 3 fois plus de personnes, je dirais que les ressources eau sont parties là, principalement. Donc oui, l'enjeu climatique est important et on peut pas dire que ça a pas d'impact. C'est simplement un effet loupe.
C'est pas le cœur du problème.
Non, c'est absolument... D'accord. Si c'est un problème, je sais pas si la croissance démographique est un problème ou pas, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais il y a des... Je suis assez remonté dans les... au niveau de l'écologie, c'est notre faute, c'est pas bien. Les messages écologiques sont souvent assez négatifs, ouais. Font un peu peur. Et je dis, mais attendez, mes enfants, c'est leur donner de l'écologie en n'étant que négatif, ça va pas. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, il y a de la technologie qui existe, il y a des gens qui bossent là-dessus. Il y a des solutions et donc on doit véritablement faire des efforts, évidemment, sur notre mode de vie, c'est une certitude, mais pas que. Et ça, c'est super important d'avoir des messages positifs. Donc aujourd'hui, oui, il y a un stress hydrique. Bien sûr, le réchauffement climatique a un impact, mais très faible. Donc il faut trouver des solutions alternatives dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'innovation, comme on fait nous, sur du dessalement nouvelle génération, pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins, en fait.
Et aujourd'hui, quelles sont les technologies pour avoir accès à cette eau potable?
Aujourd'hui, il y a deux grandes technologies. Il y a ce qu'on appelle le reuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les eaux usées. C'est comment filtrer et rendre potable ces eaux usées. Alors potable pour l'agriculture et l'industrie, ça c'est un premier impact, mais pas que. Potable aussi pour les populations pour qu'elles puissent boire. Donc ce fameux reuse, c'est comment réutiliser les eaux consommées pour pouvoir les mettre à disposition. Donc ça, c'est un des premiers moyens pour arriver à réutiliser ces eaux. Puis après, il y a la fameuse technologie du dessalement d'eau de mer, qui est pas nouveau, hein, c'est une technologie qui est assez ancienne, qui permet de donner de l'eau à boire à des populations, à l'industrie, à l'agriculture. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux enjeux, c'est le reuse, réutiliser les eaux, utiliser les eaux saumâtres, et après le dessalement d'eau de mer qui font partie de ces solutions.
Bon, dans le nom même, dessalement d'eau de mer, on devine un peu ce que c'est, mais c'est quoi les principales techniques pour dessaler de l'eau de mer? Parce que là, comme ça, moi, je me dis, on peut peut-être la distiller. Et encore, en termes de consommation énergétique, c'est quoi les différentes techniques voilà,
Même peut-être revenir aux bases. Ouais. C'est quoi finalement? Alors, il y a deux termes. Il y a aussi, il me semble, désalinisation, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, desalination, pareil, je crois que c'est desalination. Desalination, c'est un anglophone en fait. C'est
d'accord.
C'est le terme anglais qu'on francisise et moi, je pense que dessalement, c'est bien.
Ok. Ouais, donc, c'est quoi un peu le principe même du dessalement avant de parler des techniques? Puis, quelles sont les techniques
Le dessalement d'eau de mer, c'est enlever le sel, donc le NaCl, on va dire, le séparer de l'H2O et par différentes techniques. Donc, c'est véritablement ça. C'est, il faut séparer les sels minéraux. Des cristaux d'eau pure.
Sur quoi ça repose comme type de technique?
Il y a historiquement deux grandes techniques. Il y a la distillation. La distillation, c'est tout simple, on fait chauffer de l'eau de mer. En chauffant l'eau de mer, il y a de la vapeur d'eau qui se crée. On récupère la vapeur d'eau qui est une eau, qui est une eau douce. La problématique de cette technologie, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Je donne juste un chiffre, on a entre 10 et 12 kilowattheures par mètre cube pour cette technologie. Donc, de la distillation. La grande technologie aujourd'hui mondiale qui se développe énormément, qui représente entre 60 et 65% du dessalement d'eau de mer, on appelle ça de l'osmose inverse. L'osmose inverse, tu as des grands tubes dans lesquels tu mets de l'eau de mer. En bout de ce tube, tu mets une membrane, une micro-membrane, et tu viens pressuriser l'eau de mer à travers cette micro-membrane. La micro-membrane va stopper les sels minéraux, et de l'autre côté de la membrane, tu as de l'eau pure, de l'eau douce, sans aucun sel minéraux. Et donc ça, c'est la technologie de l'osmose inverse. Donc ce sont ces deux très grosses technologies. Historiquement, les zones en forte stress hydrique ou qui ont vraiment besoin d'eau, c'est principalement le Moyen-Orient. Historiquement, aujourd'hui, c'est plus le sujet. Moi, c'est plus ça exactement. Mais disons, au Moyen-Orient, comme ils ne payaient pas l'énergie, ils faisaient énormément de distillation où ils mettaient ça à côté d'usines de gaz ou de pétrole qui créaient cette énergie. Mais avec le temps, ça consomme tellement d'énergie que ça devient véritablement un coût opérationnel trop, trop important. Et donc, l'osmose inverse est à 60-65%, comme je disais, la technologie la plus utilisée. Alors, la distillation était à entre 10-12 kWh par mètre cube. Sur l'osmose inverse, on est autour de 3. Aujourd'hui, les meilleurs osmoses inverses
sont c'est très intéressant.
3 kWh par mètre cube. Donc, on divise au moins par 3 le coût énergétique de la distillation.
C'est quoi la membrane qu'on utilise?
Ce sont des micro-membranes qui évoluent énormément parce que c'est complètement clé. Ce sont des micro-membranes qui sont faites en céramique principalement, dans laquelle on pousse l'eau. Alors, pour ces micro-membranes, pour qu'elles soient véritablement efficientes, il faut qu'elles soient propres. Donc, ils envoient énormément de produits chimiques, de détartrants, de dessalants, pour nettoyer ces micro-membranes et qu'elles aient la meilleure des capacités. Et on verra plus tard que c'est vraiment un énorme problème après, en fait.
Ok. Bon, on creusera ça un peu plus tard. L'électrodialyse, ça te parle?
C'est un dérivé. C'est un dérivé... Okay. C'est un dérivé des technologies de distillation et d'osmose inverse, mais c'est vraiment très 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 marginal. Aujourd'hui, on trouve certaines innovations sur capter l'eau qui est dans l'air. Donc c'est à base de panneaux solaires en fait. Les panneaux solaires vont venir créer une énergie qui va venir récupérer l'humidité de l'air pour créer de l'eau pure. Mais ce sont des technologies aujourd'hui qui ne peuvent s'adresser qu'à des particuliers. On va faire max 20-30 litres d'eau par jour. Donc, pour un village au fin fond de l'Afrique, en effet, ça peut être hyper important. Maintenant, ça peut pas être une technologie qu'on développe à grande échelle. Ça peut pas répondre au problème du manque d'eau dans le monde, bien sûr. Mais ça existe et ça répond à certains
besoins.
Ouais, certains besoins dans le monde. Et donc, c'est important. On en voit pas mal en Afrique du Nord, un peu en Afrique, Sénégal, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans ce domaine-là.
Et peut-être avant de rentrer un peu plus dans les enjeux de ces deux grandes méthodes, pour être sûr de bien comprendre, vous, chez Seaward, donc vous faites quel type de dessalement et qu'est-ce que vous apportez est-ce que vous-même vous avez fait un peu...
Aucun des deux.
Aucun des deux. Est-ce que vous
Seaward, le positionnement de Seaward, c'est de répondre aux contraintes des technologies d'aujourd'hui. Donc si on reprend la distillation, l'osmose inverse... Vous avez compris que la distillation, l'osmose inverse, bien que l'osmose inverse soit moins gourmand que la distillation en consommation d'énergie avec 3 kWh par mètre cube, ça reste opérationnellement assez cher. 3 kWh, c'est beaucoup encore. L'osmose inverse, il faut mettre l'ensemble de ces produits chimiques dans l'eau pour aller nettoyer les membranes et qu'elles aient une véritable efficacité. Et le grand problème de l'osmose inverse, c'est que ces membranes arrêtent l'ensemble des sels minéraux. Ces sels minéraux qui s'agglomèrent derrière la membrane, donc sont chargés de produits chimiques qui sont nécessaires pour nettoyer les membranes. Cette boue un peu visqueuse chimique, on appelle ça de la saumure. Et cette saumure aujourd'hui est rejetée en mer, en fait. Et ce sont des énormes quantités, en fait.
Donc pour créer un autre problème à côté.
C'est créer un problème majeur à côté, en fait, de pollution des océans. Pour donner une idée de l'ampleur, pour avoir un mètre cube d'eau douce via osmose inverse, on crée 1,5 mètre cube de saumure. Donc ce sont des quantités industrielles. Au niveau annuel, c'est 52 milliards de mètres cubes de saumure qui sont rejetés. Alors 52 milliards, ça veut dire quoi 52 milliards, c'est recouvrir la France sous 10 cm de saumure chaque année.
Okay,
pour donner un peu une ampleur.
Okay, ouais. Et ça, c'est pas réglementé par aucun pays?
C'est pas réglementé par aucun pays, non. C'est pas réglementé. Aujourd'hui, ce qui nous fait nous accélérer sur les États-Unis, par exemple, c'est que les Américains, la Californie principalement, a des très forts besoins de dessalement d'eau de mer. Et on commence à avoir des usines d'osmose inverse qui commencent à être arrêtées dans leur développement, car les pollutions sont trop importantes. Donc, ce sont des sujets qui commencent à émerger. Bien évidemment, l'osmose inverse, ça donne à boire à des personnes qui sont en vraie situation sanitaire forte. Donc, on peut pas dire on arrête l'osmose inverse parce que ça pollue les océans. Je peux comprendre que l'osmose inverse aujourd'hui, c'est une techno qui est complètement fiable. Je peux comprendre qu'on ait besoin de l'osmose inverse. Maintenant, on peut plus se dire. L'osmose inverse, on ferme les yeux sur ce qui se passe à côté. C'est absolument plus possible. Alors après, il y a des capacités de récupérer ces sels minéraux, de les retraiter, sauf que ça va doubler le coût de production de l'eau pure. Donc, économiquement, c'est un vrai sujet. Et donc, nous, SeaWorlds, on a créé une nouvelle technologie, qui est une technologie de rupture, comme on dit, totale rupture, qui s'appelle la cryo-séparation. C'est-à-dire qu'on va congeler de l'eau de mer. Comme vous savez, l'eau pure se cristallise à 0 degré. Vous mettez un verre d'eau au congélateur. Dès que c'est à zéro, le glaçon se forme. Une eau qui est chargée en sels minéraux se cristallise autour de moins 3, moins 4 degrés. Donc, notre technologie, c'est d'être à une certaine température avec une certaine pression pour qu'on arrive à faire cristalliser l'eau pure et la séparer de l'eau chargée en sels minéraux. Donc, c'est le cœur de la technologie et comme je disais, on essaye de répondre aux contraintes des technologies qui existent aujourd'hui, principalement l'osmose inverse, parce que on consomme peu d'énergie, on a des ambitions de coût de production de notre eau qui est 50% inférieur à celle de l'osmose inverse. Donc ça reste un sujet très important pour nous, c'est une véritable ambition et c'est là-dessus que nous nous projetons. Et le deuxième sujet extrêmement important, c'est qu'on va avoir aucun impact sur l'environnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, vous êtes gentil, vous faites de l'eau pure, elle fait quoi le sel que vous enlevez de l'eau pure, vous en faites quoi? Alors on s'est basé sur des accords de l'ONU. Alors on appelle ça il s'appelle le pacte de Barcelone, qui a été signé en 1972, qui autorise à rejeter en mer une eau qui a une salinité qui n'est pas supérieure à 10% que celle que nous avons puisée. Donc le cœur de notre technologie, c'est de puiser cette eau de mer, la tester en termes de salinité et rejeter une eau légèrement plus salée. Mais l'eau que nous rejetons sera jamais supérieure à 10% que celle qu'on a puisée. Et là-dessus, on est dans les normes environnementales et l'océan accepte complètement une eau qui est légèrement plus salée. Et donc, il n'y aura absolument aucun impact sur la faune et la flore. Le problème de l'osmose inverse, c'est que ces paquets de saumure qui sont rejetés, c'est un peu comme je disais, une boue très visqueuse, un peu compacte. Et donc, ça fait un effet pour se dissoudre, ça met très longtemps. Donc, c'est ce qui fait, en fait, c'est la très forte concentration de cette saumure qui détruit un petit peu l'environnement. Donc, nous, on a ces deux aspects, faible consommation d'énergie, absolument aucune pollution en mer, et on est agile, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont beaucoup plus petites, on travaille en termes de flux, c'est-à-dire qu'on pompe, on dessale, on rejette. On pompe, on dessale, on rejette. À la différence de l'osmose inverse, où on pompe, on stocke dans des tubes, on pressurise, et après on a de l'eau pure. Donc c'est du stock, nous on est en flux. Donc c'est vrai qu'on a des infrastructures qui sont plus agiles, ouais, plus petites, donc plus flexibles. Donc
ça fait des besoins,
voilà, des capex inférieurs, donc des coûts d'investissement inférieurs, des coûts de production inférieurs. Donc on essaie véritablement d'être compétitif. Et si aujourd'hui on s'est lancé dans cette aventure, c'est que ça répond à un ADN de ce qu'on veut développer, de nos valeurs. C'est-à-dire que nous, on veut démocratiser l'accès à l'eau pure. Ça, c'est la clé de tout. Démocratiser l'accès à l'eau pure pour le rendre accessible au plus grand nombre, en respectant totalement l'environnement. Et c'est ce qui nous fait lever tous les matins, nos ingénieurs et l'ensemble des équipes, parce que c'est ça qui nous motive et c'est là-dessus qu'on veut arriver.
Le sel, du coup, que vous récupérez, vous pourriez pas l'utiliser dans le cycle de production du sel?
On pourrait, c'est des sujets sur lesquels on a réfléchi, mais après, on va augmenter obligatoirement le coût de production de l'eau. Nous, notre ambition, c'est de donner à boire à des personnes qui sont dans des stress complets, à boire à des personnes ou à arriver à irriguer des zones agricoles au moindre coût, pour donner la vie, en fait. Et si on commence à regarder comment on peut faire évoluer cette technologie en potentiellement récupérant les sels minéraux que nous isolons, pourquoi pas? Mais on part de notre objectif premier, qui est de démocratiser l'accès à l'eau pure. Ouais,
je pense ça, c'est des focus. Ouais. Mais par contre, si demain, quelqu'un peut vous approcher en vous disant « Tiens, vos déchets, moi, ça m'intéresse, vous me les revendez à bas prix ou... »
Nos déchets, en fait, aujourd'hui, le sel que nous isolons, on le rejette en mer, sachant qu'on va pas du tout impacter la vie aquatique. Pour vous donner une idée, sur 100 mètres cubes d'eau de mer qu'on va puiser, on va faire 10 mètres cubes d'eau pure. Donc, on rejette une eau qui est en effet un petit peu plus salée, mais qui n'impacte absolument pas l'environnement. Donc, on n'a pas ce sujet de se dire, ces stocks de sel qu'on pourrait récupérer, on pourrait en faire autre chose. En fait, ce sel est complètement et réintégré à la vie marine de manière totalement inoffensive et sans impacter l'environnement.
Mais c'est du sel qui ressemble au sel de Guérande ou
C'est du NaCl, okay. En termes chimiques. Alors aujourd'hui, nous, ce qui est important, c'est d'avoir l'eau pure la plus, en termes de qualité, la meilleure. Donc aujourd'hui, on arrive quasiment aujourd'hui à dessaler l'eau de mer. On arrive à cette ambition, on est arrivé à y répondre avec notre technologie. Et aujourd'hui, on en est à un niveau où on essaie d'isoler certains sels minéraux pour les garder dans l'eau et en éliminer d'autres. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer le NaCl, le fameux sel, en fait. Mais si on peut garder du magnésium, du calcium, c'est intéressant pour l'eau parce que ça, pour le corps, ce sont des bons sels minéraux. Donc aujourd'hui, on en est un petit peu à trier les bons ou les moins bons sels minéraux pour qu'on ait une eau d'une qualité.
J'allais justement vous poser cette question. Comment on fait ça? Comment on fait pour récupérer?
Ça, c'est la qualité de nos ingénieurs, on va dire. En fait, il y a deux grands principes dans notre technologie. Il y a un aspect de physico-chimie, c'est-à-dire c'est d'obtenir les cristaux d'eau pure les plus purs possibles. Puis après, il y a un aspect thermodynamique pour utiliser le moins d'énergie possible, consommer le moins d'énergie possible. Donc la physico-chimie associée à la thermodynamique nous permet, avec ces ingénieurs qui ont différents profils, de savoir comment isoler la meilleure des manières, c'est celle. Bon, on n'en est pas encore arrivé là exactement, mais on commence à avoir des progrès et on commence okay. à...
Aujourd'hui, les équipes, elles ressemblent à quoi?
Les équipes, aujourd'hui, on a des ingénieurs. On a eu la chance de faire des levées de fonds. Moi, en tout cas, une première levée de fonds qui nous a permis d'installer une équipe sur notre technocentre qui est en région sud, exactement à Pertuis. au nord de Marseille, on a notre CTO qui est notre donc le boss de notre technologie, personne qui a fait affaires et métiers. Après, il a des ingénieurs avec lui qui ont fait différentes écoles. Puis on se fait aider. Là, on vient de signer un NDA avec le CEA, par exemple, sur des applications extrêmement précises. On travaille avec un chercheur de l'INRA qui est un chimiste et qui vient également travailler sur ces sujets de séparation des bons et des mauvais sels minéraux. On travaille avec des experts du froid sur certains sujets. Donc, on a un cœur de 5 ingénieurs aujourd'hui basés chez nous et on a 3 ou 4 sociétés expertes dans certains domaines que nous allons solliciter sur des sujets extrêmement précis de l'ensemble de notre chaîne de dessalement.
Et donc, si je comprends, cette technologie, vous en êtes à l'origine. Est-ce qu'elle est brevetée, par exemple?
Oui, elle est brevetée.
Elle vient de, en fait, elle vient de laboratoire.
C'est nous qui l'avons. C'est la société qui l'a. Moi, c'est notre inventeur, on va dire, qui l'a écrit, qui l'a fait breveter. Le brevet est détenu par la société. Très certainement, nous allons déposer 1 voire 2 autres brevets pour répondre à l'ensemble des ambitions qu'on s'est fixées.
Et du coup, ces ambitions, ça nécessite quoi comme infrastructure? C'est quelque chose qui est énorme ou ça peut se mettre un peu partout?
Non, aujourd'hui, on est petit parce que notre usine, notre première brique, c'est d'assembler la première unité de dessalement. Donc aujourd'hui, on a un moyen d'essai donc qui commence à être assez complexe dans la manière dont c'est organisé, parce qu'on a tous ces aspects de physico-chimie, thermodynamique. Donc on assemble différents outils assez qualifiés pour travailler sur ce moyen d'essai. Et avant la fin de l'année, on va unifier le premier démonstrateur. On va assembler une première unité avec un design très spécifique qui nous appartiendra pour être live, on va dire, en début d'année 2024.
D'accord. Donc est-ce que c'est possible même d'imaginer à terme une solution pour les particuliers? Ou est-ce que, mine de rien, ça restera quand même des infrastructures qui sont des usines assez grosses?
Aujourd'hui, on veut répondre au niveau industriel. On n'est pas un particulier, ne pourra pas, ou ça dépend le particulier, mais
oui.
On aimerait répondre à des problématiques dans des ports. Aujourd'hui, un port maritime, c'est pas simplement un endroit où on parquait un bateau. Ce sont des centres de vie, donc on aimerait répondre à des ports qui ont ces problématiques de pollution par le rejet de la saumure via l'osmose inverse. Le côté insulaire, il y a des installations, des hôtels sur lesquels certains, ils ont des gros besoins en dessalement d'eau de mer. L'osmose inverse ne répond plus à leur valeur. Donc voilà, on peut, particulier non, mais faire des unités de 500 mètres cubes jour nous paraît une première target intéressante, entre 200 et 500 mètres cubes jour. Puis après, on pourra faire 1000, 2000, 3000, 5000. Nos ambitions aujourd'hui, c'est faire de l'industrie avec des tailles relativement modérées pour potentiellement aller assez haut avec des grosses quantités. Mais voilà, on s'est fixé des zones de développement géographique avec des partenaires précis pour d'abord répondre à des besoins modestes, je sais pas, entre 500 et 1000 mètres cubes jour, je sais pas si c'est modeste ou pas, mais répondre à des vrais sujets.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.